Frères et sœurs, je vais lire un texte très court, une parabole que nous connaissons bien. Je ne vais pas aller dans l'Apocalypse, je vais aller dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Donc ça fait partie du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7. C'est un réconfort de nous tenir ensemble aujourd'hui. On a besoin de beaucoup de fraternité, de chaleur. Hier, je participais au temps de mémoire du crématorium de Verne-sur-Seiche. Il y avait du monde toujours. Mais on sentait les gens grande tristesse pour plein de choses. Pour leur deuil personnel, pour la situation en France. Et d'habitude, après, on reste toujours pour prendre un café ensemble, mais là, les gens sont partis vite. On a besoin de se tenir proche, sentir que nous avons l'amitié qui nous tient. Alors, je lis avec vous Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi... Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Nous sommes dans le torrent, dans ces tempêtes que l'histoire connaît depuis le début. Mais Jésus nous dit, à propos de ces périodes comme nous avons vécu cette semaine, quand vous verrez ces choses arriver, vous savez la suite, redressez vos têtes. Et je pense qu'il faut redresser nos têtes, ce qui veut dire regardez plus haut, regardez plus loin que ce que nous avons vu avec effroi. Nous avons devant nous les douleurs de l'enfantement du monde. Nous attendons le Seigneur. Je pense qu'on peut dire maintenant, sans esprit de clocher, quasiment tous les chrétiens du monde se rendent compte qu'il se passe des événements qui annoncent la venue de Jésus. Et nous sommes dans cette période de douleur, de l'enfantement. Nous ne sommes pas sur une île déserte, spéciale chrétien. L'apôtre dit que nous devons souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais Jésus dit, quand il parle de cette époque que nous vivons, et qui existe depuis 2000 ans, mais qui s'accélère, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Parce que la peur est mauvaise conseillère. La peur égare l'esprit. Je crois que nous ne pouvons pas céder à la tentation de dénigrer tous les musulmans. C'est impossible. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas prononcer des jugements hâtifs. C'est une organisation très spécifique. Mais nous, les chrétiens, nous devons veiller. La peur peut nous paralyser dans notre mission, Je vais plus venir au culte. Voilà, parce que j'ai peur. Je vais plus sortir de chez moi. Elle peut nous dérégler dans notre vie de prière. On ne va plus prier pour les choses importantes. On ne va plus se réjouir avec ceux qui se réjouissent d'une naissance, d'un événement heureux. Que votre cœur ne se trouble pas. Commandement de Jésus. Nous ne connaissons pas toutes les conséquences de ces attentats. Nous avons vu ce qui s'est fait vendredi soir. Nous ne voyons pas les années qui viennent parce que les conséquences vont se répercuter sur les années qui vont venir. Ce que nous pouvons dire, je ne suis pas spécialiste, sans dire qu'on est entré dans une guerre, ça fait un peu penser à la guerre, bien sûr, mais nous sommes entrés dans un temps de fragilité extrême. Nous sommes entrés dans un temps de risque, d'inconnu, de complexité. L'apôtre Paul dit dans l'épître à Timothée, les temps difficiles. Les temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront cruels, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Il y a deux grands événements, il y en a beaucoup d'autres que nous voyons. Mais le monde voit deux événements, je vous en ai déjà parlé, qui vont troubler l'humanité profondément, encore pour certainement beaucoup d'années. Le climat va troubler 300, 400 millions de personnes. Et la violence, climat et violence. On n'a pas de remède facile. C'est un temps donc difficile. Nous avons besoin de retrouver entre nous la vie avec Dieu, sans fanfaronnade. Il faut faire attention de ne pas être fanfaron dans sa foi, en disant, mais nous serons plus que vainqueurs. Vainqueurs sur quoi ? Que Dieu fasse qu'on soit vainqueur sur le péché. Mais quand on est embarqué dans une affaire de terrorisme, on ne va pas se retrouver tout seul vivant. Quand je suis allé en Suède il y a quelques années, il y a une navette, un bateau, parce que la Suède, il y a des bateaux qui rejoignent les îles, et sur un bateau, il y avait toute une classe d'étudiants de la Bible, de nos églises. Et ce bateau a fait naufrage, il a coulé. Il a coulé avec ses étudiants, ses futurs pasteurs. On ne comprend pas tout. On n'est pas épargné. Pourquoi ne bannissons tout ce qui est fanfaron ? On doit réussir. On peut réussir, mais en quoi ? Je pense que ce qu'il faut réussir, c'est de demeurer dans les choses que nous avons reconnues comme certaines, c'est-à-dire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, il faut des vainqueurs, les fameux vainqueurs de l'Apocalypse. Oui, ne soyons pas fanfarons dans la foi. Au début de la réforme protestante, début des années 1600, il y a eu quand même une vague de l'esprit sur la France. En quelques mois, on a ouvert 2000 églises. On n'a jamais refait ça. 2000 églises. Alors, les premiers réformés, huguenots, auraient pu dire, c'est nous. Mais il y a eu la persécution. Ils sont partis tous, presque tous, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, Afrique du Sud, Angleterre. On vient de retrouver en Hollande, je crois, une caisse avec des lettres des huguenots qui écrivaient à leur famille. Et ces lettres ne sont jamais arrivées. Donc il y avait des souffrances. et puis il y avait la guerre de 30 ans qui a déchiré l'Europe, 30 ans de guerre. Donc, restons humbles. Si nous devons nous glorifier, glorifions-nous de connaître le Seigneur qui s'est révélé par grâce à nous. Amen. Ces attentats sont gravissimes, pas seulement pour le nombre de décès que nous avons vus, mais parce qu'ils vont de plus en plus semer la terreur. Jésus disait « Il y aura des guerres et des bruits de guerre ». Jésus disait « Ce qui était au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme, au temps du retour de Jésus, le temps de Noé ». Temps de Noé, souvent on pense à « ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants ». Il n'y a pas que ça. Quand on regarde la Genèse au chapitre 6, on voit qu'au temps de Noé, la terre était pleine de violence. Il n'y avait pas des attentats comme ça, mais pleine de violence. Tous les jours, on pensait, malgré la fête des mariages, malgré l'ivresse, on pensait à faire du mal. Et Jésus dit, ces choses reviendront. Aujourd'hui, sur 162 pays dans le monde, il y en a 151 en guerre. 11 pays seulement, actuellement, ne sont pas en guerre. J'en connais un, c'est la Suisse. Puis encore, tout est fragile. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 3 ou 4 pays seulement n'étaient pas en guerre. C'est tout. Alors que faut-il dire ce matin? Je pense qu'il faut dire que nous avons un devoir d'éducation chrétienne envers l'Église, envers les frères, les sœurs, envers les enfants, envers les jeunes. Il faut apprendre à regarder, à rejeter le mal, à s'attacher au bien. Quelle est la première leçon, la première éducation de Dieu avec Adam et Ève? Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu peux manger de tous les arbres du jardin, le bien, le mal. Première leçon de l'école de Adam et Ève. Aujourd'hui, il faut revenir à l'éducation chrétienne et humaine. Apprendre à être ensemble, avec les enfants, pas faire de bande à part, pas faire non plus de repli sur nous-mêmes, faut ouvrir nos portes, on ouvre pas les portes parce qu'il fait pas très chaud, il faut ouvrir notre mentalité. Et quand on est ensemble, Jésus est au milieu de nous. Amen. Il ne faut pas laisser les enfants dans leur bulle portable. C'est une bulle, le portable. Il ne faut pas les laisser devenir sourds. Ils sont tellement branchés sur le portable qu'ils sont sourds, aveugles. Ils ne voient plus Dieu, ils ne voient plus le monde, ils ne voient plus les autres. Seigneur, délivre-nous des bulles. Oui. Il faut apprendre à se tenir devant Dieu dans ce temps difficile. Sans excitation, sans slogan. On n'a rien à prouver à Dieu. On n'a rien à démontrer, on n'a rien à apprendre à Dieu. Il sait tout depuis le commencement. Enfin, il n'y a pas eu de commencement, ça c'est simple. Se tenir sans slogan. Souvent, j'entends les gens qui disent, les frères et sœurs qui disent « Dieu ne permettra pas que je sois malade. Dieu ne permettra pas que. Dieu ne permettra pas que. » Il faut bien lire les Écritures. Et quand il est dit « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces », il n'est pas dit « Dieu ne permettra pas que vous soyez malade », que vous soyez dans le chagrin. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà, tentés oui, mais pas au-delà de vos forces. Et Dieu préparera le moyen pour en sortir. Alors, attention au slogan. Il faut redevenir simple et biblique, clair. Jésus a dit « Soyez sur vos gardes, afin que vous ayez la force d'échapper et d'être debout quand le Fils de Dieu paraîtra. » Je pense que les temps que nous vivons actuellement sont graves. Il nous faudra faire des efforts pour rester debout dans la foi, dans la prière, pour annoncer le Christ. Ça n'a jamais été facile, l'Église. Au temps des Huguenots, nos frères, les années 1600, 1700, pour annoncer le Christ, il fallait passer la journée cachée dans une cheminée, comme Pierre Durand. Et il annonçait l'Évangile sans voir ses paroissiens la nuit dans la forêt. Et le jour, il était dans l'ombre de la cheminée. Pas facile. Il ne faut pas que nous pensions qu'avec Dieu, l'Église, ça va être facile, que tout va être comme un tapis de roses. Souvent, des gens disent « L'Église sera enlevée au ciel avant les tribulations. » Je ne crois pas. Je crois qu'on sera enlevé avant une certaine période de grande tribulation. Mais est-ce que l'Église est partie au ciel avant la Deuxième Guerre mondiale ? Elle est restée. Cette guerre qui a fait 70 millions de morts. L'Église était là. Donc l'Église connaît des tribulations. Mais Jésus l'a dit. Alors il faut de l'éducation. Il faut apprendre aux nouveaux commençants, aux nouveaux baptisés, aux enfants, l'importance de la vie. On ne risque pas sa vie, on ne joue pas avec la vie. On ne s'amuse pas à boire du poison en disant « c'est rien ». La vie, c'est un don de Dieu. L'importance du corps. On ne se salit pas le corps avec une sexualité satanique. On ne joue pas avec la mort, on ne joue pas, on comprend l'importance de la mort, l'importance de la souffrance, l'importance aussi du mal, la gravité du mal, du péché. Il faut que toutes ces choses soient bien ancrées en nous. Si on regarde que la télé, on va devenir superficiel. Des gens du zapping qui voient tout dans les lumières scintillantes des studios d'Hollywood. Il nous faut comprendre l'importance de la prière. Il faut prier pour ces milliers de familles. Même si ce ne sont pas des chrétiens. Je pense que le monde pour nous n'est pas sans intérêt. J'étais autrefois dans ce qu'on appelle le monde, vous aussi. Certains étaient même très loin dans le monde. Mais depuis le commencement, j'ai appris à ne pas rejeter personne. Donc, il faut prier pour ces familles, même si elles ne sont pas chrétiennes, même si elles sont au bout du monde. Il y a des catastrophes du bout du monde qui ne nous touchent pas. On continue de trinquer et puis de manger, et puis on regarde ça à la télé. On n'est plus beaucoup touché aujourd'hui parce qu'on est envahi d'images. Il faut de plus en plus faire attention à l'indifférence. L'indifférence qui nous gagne petit à petit. Il faut gommer l'indifférence de la vie chrétienne. Devant les personnes âgées, il faut savoir les regarder, les saluer. Devant les gens discrets qui ne parlent pas, qui ne font pas de bruit, qui ne demandent rien, il faut savoir les regarder, aller vers eux. Devant les pauvres, qui ne sont pas trop olé olé, au calme, parce qu'ils n'ont pas le cœur à se réjouir, il faut aller vers eux, vers les étrangers qui entrent dans notre Église. Nous accueillons parmi nous des frères et sœurs étrangers, étrangers à la France, puis pas tout à fait, enfin, je ne sais pas, il faut qu'on définisse le mot étranger. Et puis les muets, ces gens qui ne parlent pas parce que, tout simplement parce qu'on ne les écoute pas, tout simplement parce qu'on ne leur dit pas « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Il faut délier la langue des muets, faire parler les muets. C'est important de parler. Il faut apprendre l'éducation, il faut apprendre la prière. La prière ne changera pas le monde. Une fois de plus, pas de fanfaronnade. Avec la prière, ça ne changera pas les choses qui doivent arriver. Ça doit arriver, c'est écrit depuis toujours. Je ne dis pas que c'est écrit depuis que l'apôtre saint Paul l'a écrit, c'est écrit depuis toujours. Toute l'éternité, des choses ont été écrites. On ne va pas les changer, ces choses-là. Mais nous prions pour être gardés. Nous prions pour changer, nous. Et nous prions pour rester en vigilance, attentif, toujours en relation avec Dieu. C'est ça l'huile des dix vierges. C'est l'huile de la vigilance. Jésus conclut la parabole en disant tout au bout, c'est pourquoi, virgule, veillez et priez. L'huile, c'est la vigilance qui ne doit pas tarir, s'éteindre. Il faut toujours faire attention, toujours rester avec Dieu en relation. Prier, on ne va pas changer tout. Il faut prier pour nos enfants, pour qu'ils suivent la voie du Seigneur. Il faut retrouver la lecture de la Bible, frères et sœurs. Si nous lisons bien la Bible, nous allons devenir intelligents sur les temps que nous vivons. Nous aurons des paroles en nous qui vont nous nourrir. Nous serons intelligents sur la vie avec Dieu, sur la réalité du monde. Nous verrons mieux la réalité du monde. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Hier en préparant cette méditation, je me dis non, je ne veux pas juger. Je ne veux pas juger ce groupe métal qui a embrasé le Bataclan avec sa musique, ce groupe qui s'appelle les Aigles de la Mort. Je ne veux pas apporter, j'aime pas cette musique bien sûr, vous me connaissez un peu, mais je ne veux pas apporter aucun jugement parce que je veux regarder plus loin. Jésus disait, redressez vos têtes. Regardez pas ce groupe-là. Regardez ces jeunes qui ont été massacrés au pied du groupe. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas dire, c'est à cause de ce groupe. Non, il ne faut pas juger. Frères et sœurs, chaque parent, chaque chrétien est porteur donc d'un message, porteur de Dieu. Dieu habite en nous. Par conséquent, il faut que sa vie morale, sa vie familiale, que sa vie d'église soit exemplaire. Il faut donner de l'éducation, pas des cours, mais des modèles. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail à petits pas. On ne réussit pas l'éducation des enfants en 2 minutes et demie. Il faut la vie et il faut que nous puissions apprendre beaucoup de choses. regardez les autres. Vous savez la parole que nous dirons quand nous arriverons au jugement dernier ? Vous connaissez cette parole ? Je la connais par cœur, mais je ne sais pas si j'y fais bien attention. Nous dirons tous au Seigneur, mais quand avons-nous vu ? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Quand avons-nous vu ? Avoir soif, avoir faim, être nu, être malade. Pourquoi nous ne voyons pas ? Seigneur, explique-moi, comment se fait-il que je ne vois pas ? Je ne te vois pas, puisque tu me le diras. Pourquoi ? C'est à moi que vous l'avez fait et nous te dirons en quoi t'avons-nous vu malade ? On a beaucoup de choses à apprendre sur la valeur et l'importance des frères et sœurs, des autres, dans lesquels Jésus est présent, se cache. Il faut qu'on soit florissant dans la vie chrétienne. Les branches mortes ne donnent pas de fruits. Les chrétiens qui n'ont pas de relation avec l'Église, avec la parole de Dieu, avec la prière, avec les valeurs fondamentales de l'éternité de Dieu, ces frères et sœurs-là sont peut-être des branches mortes et ne donnent pas de fruits, de fleurs. Il faut que nous revenions à un cœur plus ouvert, à une Église plus ouverte, une Église qui accueille, là je vais parler clairement, avec des paroles de bienveillance. On ne juge pas, les gens ne sont pas à notre niveau, sont peut-être moins que nous, plus que nous, je ne sais pas. Il faut des paroles de bonté, des paroles éclairantes, des paroles de patience, des paroles de Dieu. Il ne faut pas un repli sur nous-mêmes. Bien sûr, vous savez que tout ce que nous vivons en ce moment, l'origine de tout, c'est le conflit. C'est pourquoi on est attentif. L'origine de tout, le conflit Israël-Palestine, à l'origine de tout, c'est une pierre pesante. On ne pourra pas la soulever, je ne pourrai jamais la comprendre. Pesante pour les nations du monde entier. Et aujourd'hui, nous le sentons. Mais je ne vous ai pas parlé de mon homme qui bâtit la maison. Il n'y a pas dans la parabole de Jésus un homme qui bâtit, puis un homme qui ne construit pas. Il est étourdi, il est négligent, il est paresseux, il est feignant. C'est ce qu'on disait parfois les parents autrefois, t'es feignant. Il n'y a pas un homme qui construit, puis un homme qui ne construit pas. Non. Il n'y a pas la cigale qui travaille, la fourmi qui travaille tout l'été, et la cigale qui dort et qui chante tout l'été. Non, il y a deux hommes qui construisent. Un construit sur le roc, un construit sur le sable. Comment savoir laquelle maison est la plus solide ? Quand on achète une maison, on a des surprises parfois. Quelle est la maison la plus solide ? Eh bien, pour le savoir, c'est simple. Attendez la tempête. Jésus l'a dit. Quand les torrents déborderont, quand le vent soufflera, quand la tempête va se déchaîner, vous verrez la véritable maison solide. Ça veut dire pour nous, dans les persécutions quotidiennes, on ne va pas forcément aller sur les bûchers, hein, dans les persécutions quotidiennes, dans les difficultés de la vie, dans tout ce que nous vivons de dur, difficile, douloureux, eh bien nous voyons ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui prennent au sérieux sa parole, ben oui, c'est sa parole qui est le roc, et qui construit sur le roc de la parole, et ceux qui construisent sur l'émotionnel, les petits grains de sable, là, on voit la différence. Et nous verrons cela au jugement dernier. Au jugement dernier, nous verrons certainement des personnes dont on a dit « ce sont des gens superficiels, ce sont des gens un peu distraits ou discrets. Ils accourront parce qu'ils ont construit leur vie dans le secret de leur cœur, sur le roc de la parole de Jésus. Puis d'autres qui semblaient tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Tellement tout feu, tout flamme qu'ils nous glaçaient le dos. Ils se cacheront dans les coins parce qu'ils n'ont pas construit sur le roc de la parole. Je termine. Seigneur, toi tu sais comment est fondée ma maison. Ma maison de famille aussi, hein. Comment est fondée ma vie. Je veux construire en profondeur. Aujourd'hui, il faut des gens bien construits, enracinés. Pas à la surface, pas dans le visible, pas dans le tape à l'œil, mais en profondeur. J'ai vécu dans ma jeunesse, mon enfance même, une tornade. Je me souviens, ça avait fait vraiment beaucoup de ravages dans notre quartier de la Normandie. Même une deux chevaux qui était montée sur un toit. Il fallait le faire, hein. C'est pas très haut, mais elle s'est soulevée, elle est arrivée sur le toit. Et des arbres déracinés. Et avec l'école, on était allé voir les arbres déracinés. C'était un petit voyage. Et il y avait, je sais pas, une bonne dizaine d'arbres très grands, 12 mètres de haut peut-être, qui étaient renversés. Et puis à côté, des arbres aussi grands, ils n'étaient pas renversés. C'est étrange, hein. Mais ces arbres qui paraissaient grands n'avaient pas beaucoup de racines. Apparemment, ils semblaient les mêmes. Mais la tempête a montré la solidité des uns, la fragilité des autres. Seigneur, donne-nous d'être enracinés en toi. Amen. Dieu voit notre angoisse aujourd'hui de vivre dans le monde de violence de maintenant. Il voit. Vous n'avez pas été angoissé? On n'est pas bien aujourd'hui. On n'est pas bien. Ce n'est pas qu'on a peur pour nous d'être assassinés, mais on sent une lourdeur, on sent un chagrin, une peine. Mais le Seigneur étend sur nous ses ailes comme la poule qui rassemble ses petits. Et le psaume 63 que nous aimons tellement, « Tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Amen. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les familles, les enfants, les frères et sœurs, ceux qui s'ajoutent, que Dieu nous fasse de nous des gens sérieux, éduqués. Amen. Prions. Nous voulons être attentifs à la parole de Dieu. Nous voulons la serrer dans notre cœur. Ne pas nous croire plus malins, plus forts, plus intelligents. Nous voulons te dire, nous voulons être comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, comme dit le psaume. Nous voulons boire ce lait spirituel et pur. Nous voulons toujours apprendre. Garde-nous des fanfaronnades, garde-nous de l'orgueil, de la vanité, garde-nous de la sécheresse de cœur et de l'indifférence. Fais de nous des chrétiens d'amour, de prière, d'espérance, de réconfort, de foi, d'accueil, au nom de Jésus-Christ. Amen.